Chers amis de PFC, bonsoir et bienvenue dans cette réunion à Romainville du dimanche 19 octobre 2014. Et oui, nous sommes encore dans le temps. On va faire juste un petit tour de prénom et puis on pourra à cette occasion saluer qui on a envie de saluer, qui soit dans notre région ou éloigné de notre région, qui n'est pas là présentement.
Bonsoir Véronique, je salue Anne-Marie.
Bonsoir Ludmila. Je salue Marion, Christelle, Jacques, Thierry, Roland, et Cathy, Juliette et tous qui nous sont ici.
Bonsoir, c'est Christine. Je salue Cathy et Nancy. Je salue Jean-Louis, Juliette, Lina. Et voilà, bonne soirée.
Bonsoir, c'est Nicolas. Bonsoir. Donc je salue Sweetie qui est avec nous là, la chatte. Et puis Marine qui n'est pas là.
Bonsoir, c'est Avi. Ravi d'être là avec cette famille PFC qui se réunit ici souvent le dimanche. Je salue Lina de tout mon cœur. Je suis très heureux que le projet de vie, le lieu de vie se concrétise, se réalise. Et qu'en même temps, le corps semble aussi moins éprouvé de douleur, donc ça c'est une excellente nouvelle. Tout mon amour, Lina. Un chaleureux bonjour à Sandra, dans le sud de la France. J'espère que tu as passé une journée bien chaude et ensoleillée, comme nous ici sur la région parisienne, vers Nice. Et puis un chaleureux bonjour à Marine, qui est nouvellement installée à Fribourg en Allemagne. Donc, es-tu déjà allemande ou pas, ou restes-tu citoyenne française? Tu nous le diras peut-être. En tout cas, voilà, c'est l'Allemagne au vu de ce qui se passe au niveau écologique et conscience. C'est un pays qui attire beaucoup de monde en Europe aujourd'hui. Et beaucoup d'Espagnols, parce qu'il y a beaucoup d'emplois là-bas. Donc ça va commencer à être un melting pot, c'est peut-être déjà l'Allemagne. Mais j'entends, surtout avec Arte, j'entends beaucoup parler de l'Allemagne en ce moment. Bon, ça c'était une aparté. Voilà, s'il y a des nouvelles de PFC, s'il y a des nouvelles de PFC France avec Facebook, bienvenue à en parler. S'il y a des nouvelles personnelles sur qu'est-ce qui a été vécu cette semaine en relation avec PFC, ou des sujets comme l'énergie libre, ou des sujets reliés aux arts, à la technique, à la santé, tous les 6 pôles majeurs de PFC. Bienvenue à ces sujets-là. Alors, moi, je témoigne du fait que c'était pendant la méditation de libération planétaire, j'ai pu, dans la deuxième partie où on disait EA, j'ai pu visualiser beaucoup plus facilement, me visualiser, étant au centre d'une spirale arc-en-ciel qui balayait au début la région parisienne. C'est comme si je me voyais de haut à Romainville, et autour de moi il y avait une spirale de couleur arc-en-ciel qui était sur la région parisienne, Et puis c'est comme si mon regard s'élevait et que ça, ensuite ça couvrait toute la France. Et mon regard s'élevait encore, ça couvrait toute l'Europe. Et quand mon regard s'est complètement élevé, il y avait toute une hémisphère de la planète qui était baignée dans la lumière arc-en-ciel. Alors ça englobait pas l'autre moitié parce que j'étais au-dessus de... Bon, c'est pas très important. Faudra peut-être aller... je ne sais pas, en Nouvelle-Zélande, pour faire l'autre moitié. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Bon, ça c'est une chose qui était agréable. À un moment, j'ai senti des vibrations, tout en visualisant ce vortex, j'ai senti comme des frissons, comme des vibrations dans mon corps. Et je me suis dit, ah, attention, je vais peut-être être aspiré par... par Sirius ou je sais pas, ou par un vaisseau, parce que je me sentais un peu sortir de mon corps. Et puis il y a une deuxième chose qui m'est apparue, et c'est étrange parce que bon, c'est pas la première fois que je ressens ça. Quand il y avait cette invitation à ressentir un rayon bleu électrique qui venait du soleil central de la galaxie, qui passait par mon corps et qui allait jusqu'au centre de la Terre, eh bien, mon esprit logique me disait, ça fait trois points. Et ces trois points-là, mon esprit très yang me disait, ils ne sont pas forcément en ligne droite. Alors bon, je sais, mon mental, il est appelé à se taire de plus en plus. Mais je me suis dit, comment imaginer un rayon de lumière bleue électrique qui soit en ligne droite alors qu'il y a trois points. Peut-être que le soleil galactique il est devant moi et le centre de la Terre il est sous moi, donc ça ne fait pas une ligne droite. Bon, j'ai un peu oublié ça, peut-être ça n'a aucune importance, mais j'avais quand même du mal à visualiser. J'arrive à visualiser quand je me mets à l'extérieur de la Terre et que je me visualise. Et à ce moment-là, je visualise un rayon de lumière qui passe à travers. Bon, ça, c'est pas super important parce qu'on peut dire que c'est juste un symbole et que ça n'a pas besoin d'être vraiment aligné. Et après, je me suis dit, est-ce que le Soleil galactique, c'est Alcyone? Ou est-ce que c'est pas Alcyone? Et après, je me suis dit, non, c'est pas Alcyone. Alcyone, c'est une étoile qui est dans la constellation des Pléiades, d'après ce que je sais. Et donc, les Pléiades ne sont pas au centre de la galaxie, mais au centre de la galaxie, il y a l'étoile ou la constellation SGRA, c'est ça, hein, qui est aussi un trou noir. Il y a une étoile très massive et il y a aussi un trou noir qui sont tous les deux. Alors, il faudra peut-être que je regarde dans ma super application, la SkyMap, pour voir où se situe dans notre ciel le centre de la galaxie. C'est intéressant à savoir.
C'est pas bon, là?
La lumière.
Ah, oui, d'accord. Quand tu, les jours où le ciel est dégagé, tu vois la traînée de la Voie lactée. Tu vois cette traînée, bon, bah, logiquement, bon, elle a une certaine longueur, elle est un peu diffuse. Logiquement, le centre de la Voie lactée, ben, elle est au milieu de cette traînée.
Alors, est-ce que cette Voie lactée, elle bouge dans le ciel, elle descend, elle monte, elle va à droite, elle va à gauche, ou est-ce qu'elle est toujours au même endroit? Je suppose que si la Terre tourne, elle change d'endroit dans le ciel.
Oui, là, il y a la voûte céleste. Alors, on a les astres, le Soleil, la Lune, qui eux, bougent beaucoup. Puis, on a d'autres, les planètes du système solaire, qu'on peut voir. Enfin, on ne voit pas forcément la différence avec des étoiles, ça bouge. Et tout le reste... en gros, ça bouge pas, mais par contre, c'est l'ensemble qui bouge, quoi. Il y a tout qui bouge, mais en gros, c'est toujours la même image qui se dessine tous les jours, année après année. siècle après siècle, ça n'a pas évolué beaucoup. Hein. Donc la Voie lactée, elle va toujours être située au même endroit par rapport aux étoiles, et le centre de la Voie lactée sera toujours au même endroit. Mais par contre, tout ça, ça bouge évidemment. À peu près à la même vitesse que le Soleil. Hein. Parce que. En fait, tout ça. Oui, parce qu'en fait, on voit la. Si on voit tout ça bouger, c'est parce que la Terre, elle tourne. Mm. Mais le Soleil lui-même, voilà, il fait quelque part, il fait partie de cette voûte céleste. Mais sauf qu'on le voit pas en la nuit, puisque la nuit, justement, on voit les étoiles parce qu'il est. C'est la nuit, quoi, donc on voit pas le Soleil.
Oui, donc je suppose que toute la voûte céleste semble tourner autour de l'étoile polaire, Polaris. Hein, puisque quand j'étais jeune, je faisais des photos. Je faisais des photos en plan B, en pose B. Ça veut dire objectif ouvert pendant une heure. Je mettais mon appareil sur un pied. J'appuyais, j'avais un déclencheur spécial qui maintenait l'objectif ouvert. On pouvait prendre un 30e, un 60e, un 250e. Et plan B, pose B, ça veut dire objectif ouvert dirigé vers l'étoile polaire. Et à ce moment-là, je développais la photo, parce que je développais les photos tout seul aussi, avec mon petit labo, en noir et blanc, hein, comme dans le temps, parce que je suis plus tout jeune. Dans le corps, hein, parce que le reste ça va. Et puis, qu'est-ce que je voyais sur la photo? Je voyais comme un cercle, comme des arcs de cercle, tous autour d'un point fixe qui était l'étoile polaire. Donc, comme l'axe de la Terre est dirigé vers l'étoile polaire, la rotation de la Terre fait que toutes les étoiles semblent tourner, sauf l'étoile polaire qui est au centre. Voilà, c'était le quart d'heure astronomique de la réunion PFC. Donc, parfois, j'ai cru comprendre que certains amalgamaient Alcyone et le Soleil central de la galaxie.
C'était une des réponses auxquelles Cobra répondait, je crois que dans sa dernière interview ou dans une des dernières, là.
Oui.
Qu'il faut pas faire la confusion, justement. Donc, il explique ce qu'est le Soleil central, mais ça ne correspondrait pas vraiment à un astre donné bien physique, bien défini. C'est plus une zone, je crois, il me semble, ce qu'il a dit.
Oui, et puis comme il y a un trou noir également supermassif qui avale des astres, des nuages de gaz, peut-être que c'est à cet endroit-là que réellement se situe le Soleil central, parce qu'un trou noir, c'est un objet céleste, c'est une étoile qui s'est effondrée sur elle-même. Et donc, beaucoup semblent dire que dans chaque galaxie au centre, il y a un trou noir, et que le trou noir de notre galaxie, c'est aussi un vortex pour aller ailleurs, pour aller dans d'autres galaxies. Comme sur Terre, il y a des vortex pour aller directement sur des planètes ou des étoiles. Enfin, tout ça, ça reste à confirmer. Comment ?
Dans les chroniques du Kirkou, dans Zen Parks, il parle pas mal de ces vortex. Il appelle ça des dhyana ou portes stellaires, qui sont des. Il y en a plein, hein. Il semblerait qu'il y en ait vraiment plein. En particulier, surtout en Irak, je crois. Enfin, il y a particulièrement beaucoup en Irak. Et c'est un enjeu important pour contrôler. Alors, si j'ai bien compris, en fait, la Kabbale essaie de contrôler ces portes pour éviter qu'il y ait des entrées de. Pour éviter qu'il y ait une invasion, une aide qui viendrait de l'extérieur, en fait. Mais par contre, la Kabbale ne peut pas trop les utiliser pour partir, parce qu'elles sont, fermées à l'autre extrémité, d'après ce que j'ai compris. Enfin, c'est lié au principe de la... Enfin, ça fait partie de la quarantaine, ça, cet aspect. Le fait que les portes stellaires ne soient pas... soient pas opérationnelles. Enfin, si, elles fonctionnent, mais elles sont désactivées, en fait, parce que... Ouais, Anton Parks explique qu'on peut les désactiver et que, d'après lui, elles sont désactivées, elles sont fermées, en fait, par les... Alors, lui, il appelle ça les planificateurs. Donc, moi, ça fait penser à la Fédération Galactique. Probablement le même concept, avec des appellations différentes. Qui ne veulent pas que les Anunnaki partent, commencent à se répandre ailleurs. Parce qu'ils sont ici, d'après ce qu'il explique, ils sont ici parce qu'il y avait une guerre, ils ont échoué ici. Et ils sont un peu appropriés ce système solaire. Mais ailleurs, en fait, ils ont été largement. Ils n'ont pas vraiment pu garder le. Le pouvoir qu'avait du moins la faction un peu rebelle qui cherchait une certaine autonomie qui s'était coupée de la source, ils n'ont pas du tout pu s'implanter ailleurs. Ils sont donc restés que dans le système solaire et ils ne sont pas les bienvenus ailleurs. Donc c'est pour ça que les portes stellaires sont fermées. Mais à l'inverse, eux, probablement, c'est plausible qu'effectivement le gouvernement secret essaie de les ferme aussi pour éviter une aide de l'extérieur, de l'autre côté. Enfin, c'est, en tant que Parks, en tout cas, c'est ce qu'il pense. Et il pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y avait la guerre d'Irak, parce que c'est l'endroit où il y a le plus de portes stellaires. En plus de toutes les traces archéologiques très intéressantes pour essayer de comprendre un peu, pour avoir une autre vision du monde dans lequel on vit, quoi. C'est-à-dire les tablettes sumériennes qui, d'après Anton Parks, donc d'après son interprétation, sont très très révélatrices d'une manipulation dans le passé et qui probablement dure encore, même si lui c'est pas exactement son sujet, lui il s'occupe surtout du passé.
Oui, et puis je pourrais en finir avec ça peut-être, parce que c'est pas typiquement PFC, mais les tablettes sumériennes et l'Irak sont liées, et puis avec les tablettes sumériennes, il y a beaucoup d'annotations, de visiteurs célestes, de dieux qui venaient de... Donc, d'où l'importance, en effet, de l'Irak aujourd'hui, et puis de toutes ces énergies.
Donc on se rappelle que dès le premier jour de la dernière guerre, il y avait un musée archéologique là qui avait tout de suite été pillé.
Oui.
C'était même passé aux infos du 20h.
Ok, alors avant que j'oublie, j'ai une info qui concerne le fait que je sens que nous sommes guidés à méditer de plus en plus. Qu'au fur et à mesure du temps qui passe avec PFC, il y a des méditations qui se rajoutent. Et moi, j'ai fait le compte aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais médité 2 heures dans toute la journée, parce que je fais une méditation le matin et le soir, plus celle de 5 heures, plus celle de 20h30, plus celle de 21h, ça fait 2 heures, pile. Et je me dis, il y a un glissement vers de plus en plus de conscience grâce à ces méditations qui deviennent de plus en plus présentes dans nos vies. Parce que la méditation de l'œuf-rose, elle s'est rajoutée. Parce que la méditation de 17 heures, elle s'est rajoutée. Et toutes les civilisations ont évolué, comme sur la planète Humo, que je connais bien, parce que j'ai beaucoup lu les dossiers, Humit, ont une place importante pour la méditation. Toutes les civilisations qui sont un petit peu évoluées commencent par 1 heure de méditation, les Humites, en famille, les enfants, les parents. Donc, c'est aussi une manière d'élever notre niveau vibratoire dans PC et sur Terre, que de nous habituer de plus en plus à prendre des temps hors du monde, à des temps de silence. Et moi, je voudrais témoigner aussi que depuis que les réunions PFC ont lieu, eh bien moi, je note que les silences sont de plus en plus beaux, qu'on arrive à être de plus en plus calme, y compris les gens qui bougeaient beaucoup avant. Ça s'affine, ça s'embellit. Et je note qu'il y a une élévation de notre présence. Et ça, en seulement un an. Un an, c'est pas beaucoup dans, en termes d'évolution. Mais je vois nettement qu'il y a beaucoup plus de calme, beaucoup plus de centrage aussi dans la méditation. Et même si moi, intérieurement, je me sens calme et centré, ça me fait beaucoup de bien d'être au milieu aussi de personnes calmes et centrées. Donc, voilà, j'espère que toi qui écoutes à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, tu notes aussi ce fait. Et à propos de ça, je voulais dire que demain, je vais voir Ama. Ama qui passe tous les ans sur la région parisienne. Si vous voulez méditer, si vous voulez être entouré par des centaines et des centaines de personnes en conscience, c'est un lieu exceptionnel. Ça coûte absolument rien pour y séjourner. Et puis le soir, il y a des chants dévotionnels, il y a un discours d'Ama qui est très dans l'amour. Elle est déjà là aujourd'hui, elle reste 3 jours en France. C'est un lieu de paix extraordinaire. Pour moi, c'est la nouvelle Terre, c'est une bulle de nouvelle Terre dans la Terre 3D. Parce qu'on voit beaucoup de gens habillés en blanc. Moi, c'est là-bas que j'ai eu la première flash de ce blanc-là me fait du bien. C'est là où j'ai eu l'inspiration de me dire, tiens, moi aussi j'ai envie de me faire du bien en habillé en blanc. Donc moi, j'y serai vers 15h. Ceux qui veulent venir, moi, je peux les covoiturer. Et puis je repartirai, je ne sais pas quand, dans la soirée. Je tiens à assister au chant dévotionnel parce que c'est exceptionnel, ça vibre très bien. Il y a des musiciens là-bas en live. Et puis le discours d'Ama qui est traduit, la présence d'Ama. Et puis elle bénit des grands récipients remplis d'eau et ensuite c'est distribué. Chaque personne boit un petit peu de cette eau. Ou certains la gardent parce qu'elle recèle les vibrations de cette prière d'Ama. À propos d'eau, je tiens à vous signaler, et ça me fait frissonner, que le docteur Masaru Emoto est décédé avant-hier soir. Et que j'ai appris ça par hasard, et qu'il a été... quelqu'un qui a été très actif sur les vibrations de l'eau, sur la mémoire de l'eau, et puis sur le fait que l'émotion peut être engrammée dans l'eau, et qu'elle est importante pour nous, parce qu'on est fait à plus de 80% d'eau. Donc, j'envoie une prière, une bénédiction pour l'âme des motos, qui va continuer à être... parmi nous, et puis à veiller à notre destin à propos de toutes les eaux qui sont sur la Terre. J'ai reçu cette information par Minté. Minté, c'est un nom chamanique qu'une femme a reçu et qui a initié un mouvement qui s'appelait la Caravane des Sources et qui était très en relation fraternelle avec Masaru Emoto. Et donc, elle va faire en sorte d'honorer sa mémoire par des événements en France. Elle est sur la France. Donc voilà les nouvelles que moi j'avais à dire. Je ne sais pas, il y a peut-être autre chose qui me reviendra. S'il y a d'autres choses à exprimer. À propos de Cobra, à propos de... Qu'est-ce qui s'est diffusé sur Facebook récemment? Parce que je ne suis pas très, très branché. J'y vais de temps en temps, mais parfois je reçois les mêmes nouvelles par d'autres biais. Alors, il y a eu une canalisation de Marie, là, récemment, qui m'est arrivée par un canal différent de Facebook. Et ensuite, j'ai vu qu'elle était reprise sur Facebook aussi. Alors, je ne sais pas si c'est à propos de ça, ça parlait d'une ascension, d'un changement qui allait se produire de manière imminente. Personnellement, en ce moment, je suis inspiré à m'attendre à l'événement chaque jour, et même chaque moment. je me dis, je ne suis pas dans l'attente parce que je ne me sens pas tendu à propos de ça, mais je me dis, l'événement peut arriver à tout moment parce que le groupe Chimère est en train d'être combattu, est en train d'être démis. Ça peut prendre du temps et en même temps, on ne sait pas combien de temps. Donc, si la résistance trouve la faille qui permet de désactiver ces fameuses bombes Strangelet Toplet, c'est les derniers gadgets New Age de Chimera, les derniers joujoux technologiques, alors l'événement sera déclenché, hein, d'après Cobra. Et moi, je crois en ce que Cobra dit, sinon je ne serais pas ici en train dans cette réunion. Donc, vas-y Cobra, hein, vas-y, allez-y force de la résistance, moi je vous soutiens, je vous encourage. Et puis je sens que il y a une accélération. Alors oui, ça me revient une information, qui a entendu parler de Greg Braden en ce moment, avec l'effet
Marchi.
Oui, alors... Quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'il semblerait que les pôles magnétiques de la Terre sont sur le point de s'inverser, parce que le pôle magnétique nord bouge parfois de plusieurs kilomètres par an. Donc c'est assez... que la fréquence de la Terre est passée de 7 Hertz, je crois, à 12,8 Hertz aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était 7 Hertz. Et quelqu'un affirmerait, ben je mets le conditionnel partout, hein, pour respecter l'espace du doute, affirmerait que au-delà de 13 Hertz, donc nous sommes très proches, le temps s'arrêterait, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre une sorte d'accélération des événements et que ça va s'accélérer jusqu'au point zéro, d'après Greg Braden. Mais ce qui m'a semblé étonnant, et je ne sais pas comment c'est mis en relation, c'est que certains affirment que la Terre s'arrêterait de tourner à ce moment-là.
Il changerait de direction.
S'immobiliserait pendant 2 ou 3 jours, et ensuite repartirait dans l'autre sens. Mais en même temps, lorsqu'elle s'arrêterait, elle serait sans champ magnétique, parce que comme le champ s'inverse, hein, il y a un moment où il n'y a plus de champ magnétique, et qu'elle serait très vulnérable aux rayons cosmiques, c'est-à-dire tout ce que le champ magnétique ordinairement nous protège, tout ce qui est les tempêtes solaires n'arrivent pas, sont très atténuées parce qu'on a un champ magnétique qui a un nom, la magnétosphère ou quelque chose comme ça. Alors on serait très vulnérable aux rayons X ou à des choses qui normalement ne nous atteignent pas autant ou aussi fort. Et est-ce que c'est à mettre en relation avec les 3 jours d'obscurité dont tout le monde parle depuis longtemps dans le domaine de la spiritualité et du New Age, je ne sais pas. Mais je ne sais pas pourquoi l'inversion du champ magnétique entraînerait une immobilisation de la Terre. Je ne vois pas la relation entre ça et le reste.
En fait ce qui semble vouloir dire, c'est que l'inversion du champ magnétique, ça ferait que la Terre tournerait dans l'autre sens. Donc pour tourner dans l'autre sens, il va bien falloir qu'à un moment, elle s'arrête. Pour passer d'un sens à un autre. Je vais passer par une phase où quand je tourne dans un sens et puis quand je vais tourner dans l'autre, il y a un moment où je tourne dans aucun sens, donc je ne bouge pas. Et je pense que c'est ça qu'il veut dire, mais la question c'est pourquoi est-ce que l'inversion du champ magnétique changerait le sens de rotation de la Terre? Et ça, j'en sais rien. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de très admis a priori. Il y a peut-être parce que bon, les forces électromagnétiques, elles sont très fortes, hein. Donc s'il y a un fluide dans la Terre qui est sensible, qui est chargé, qui est en mouvement et qui est sensible au changement du champ magnétique. Enfin bon, en même temps, c'est justement le fluide lui-même en fait qui génère le champ magnétique. Enfin a priori. Donc enfin bon, c'est compliqué, je pense que moi je vais rien dire du tout, mais il y a peut-être une bonne raison qui fait que il y aura une induction magnétique qui ferait que la Terre tournerait dans l'autre sens, pourquoi pas, hein. Ça pourrait créer une force magnétique et...
Ludmila. Ludmila. D'après George Kavassilas, il explique qu'en ce moment, au présent, la Terre, elle se prépare de se transformer en étoile. Pour ça, il dit que le nucléaire de Terra, de planète, le noyau, oui, elle devient plus chaude. Et c'est ce sont des changements pour que la Terre va se transformer.
Alors, je ne sais pas si c'est en relation, mais le Soleil, par exemple, change de... inverse ses pôles magnétiques tous les 11 ans à peu près. Et a priori, il ne s'arrête pas de tourner parce que les tâches continuent de tourner dans le même sens. Parce que lorsque la Terre change de sens, ben on va voir le Soleil se lever à l'ouest au lieu de se lever à l'est. Alors, je ne sais pas quelle est la relation entre champ magnétique et l'axe de rotation de la Terre. Pour moi, il n'y en a pas une directe, mais peut-être que je ne sais pas tout.
Alors, il y a peut-être une confusion aussi, parce que quand on dit que le Soleil se lève à l'ouest, c'est par rapport à la boussole. Maintenant, si le champ magnétique est inversé, la boussole, elle va tourner dans l'autre, elle va être inversée. Donc, même si la Terre ne tournerait pas dans l'autre sens, avec un champ magnétique inversé, d'après la boussole, le Soleil il se lèverait à l'est. Donc, c'est-à-dire que le nord deviendrait le sud, le sud deviendrait le nord, d'après la boussole. Et voilà. Donc, et ça s'est passé de nombreuses fois dans l'histoire d'un point de vue géologique, hein, ça s'est passé régulièrement. Donc, dans ce sens-là, effectivement, on pourrait dire que la Terre, elle tourne dans l'autre sens, dans la mesure où, par rapport à la façon d'appeler le nord, le nord, le sud, voilà, l'est. Bon. Alors, il y a peut-être une confusion à ce niveau-là, peut-être, je ne sais pas.
Oui, oui, alors ça, d'accord, mais entre physique et magnétique, par exemple, si le soleil il se lève dans mon jardin à droite, eh ben, si la Terre change de direction, il se lèvera dans ma cour à gauche. Physiquement, il se lèvera d'ailleurs, alors que ce n'est pas seulement une question de magnétisme, hein, c'est géographique aussi. Alors, on le sait dans l'histoire parce qu'il y a des roches magnétiques qui sont vieilles et on voit que les cristaux sont orientés tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre en fonction des époques. Et que le magnétisme de la Terre, il y a une sorte d'histoire. Bon, personnellement, je doute que la Terre s'arrête parce que déjà l'inertie d'un corps massif comme celle de la Terre, ça provoquerait des tremblements de terre énormes. Le fait d'arrêter un corps aussi massif, même si ça s'étale sur plusieurs jours. Et puis, bon, nous verrons bien. Hein. Enfin, c'est peut-être le hoax, le canular massif du New Age, de dire qu'il y aura 3 jours d'obscurité à cause de ça. Enfin, bon, je...
Bah, 3 jours d'obscurité, il suffit par exemple d'une bonne explosion de volcan. Hein. Parce que, l'air de rien, 3 jours d'obscurité, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas grand-chose en fait. Hein. C'est assez banal hein, dans l'histoire dans les explosions de volcan, quand il y a une bonne explosion. Hein, 3 jours d'obscurité, en fait, c'est même pas grand-chose. Hein. Je pense qu'on a déjà vu. Enfin, il me semble que potentiellement, on pourrait vivre plutôt des 3 années d'obscurité ou 3 siècles d'obscurité, potentiellement, hein, avec des grosses éruptions. Donc 3 jours, finalement, c'est pas... Alors, même si dans l'histoire connue, écrite, on n'a pas eu, a priori, il n'y a pas vraiment eu... Enfin, il y a eu ce genre de phénomène dans des endroits localisés, peut-être, effectivement, où il faisait nuit pendant plusieurs jours, mais pas sur toute la planète, mais ça pourrait arriver, effectivement, à une grosse éruption.
Ok. Voilà. D'autres actualités. Alors oui, la bourse, vous avez entendu parler, peut-être que la bourse a beaucoup... certains pressentaient un krach boursier. Je me suis dit, est-ce que l'événement va arriver à suite à ça ou pas? Il suffit d'une déclaration pessimiste ou jugée pessimiste par certains pour que toutes les bourses mondiales, en effet de domino, chutent en même temps. Il y a eu une forte chute en milieu de semaine, là, mercredi, je crois. J'ai ouvert les actualités sur Internet et puis j'ai vu la Grèce moins 6-7%, la France moins 2, moins 3%, simplement parce qu'il y a eu une déclaration du ministre des Finances grec qui disait la Grèce se porte tellement bien qu'on pourrait se passer, ne pas attendre jusqu'à la fin de l'échéance de remboursement du prêt, de l'emprunt qu'a donné le FMI et la Banque européenne, mais on pourrait rembourser dès fin 2016 ou 2015. Et le simple fait d'avoir dit cette déclaration qui est relativement optimiste a été jugé comme certainement trop optimiste par certaines places financières, et ils sont entrés dans la peur. Et comme la bourse est le corps émotionnel de la finance, il suffit qu'il y ait de la peur, de l'instabilité ressentie pour que ça plombe les cours. Donc moi j'ai une idée, faisons leur peur un grand coup, faisons-leur une frayeur pour que ça tombe à zéro, que les cours descendent de 100%. Oui, ça se peut pas normalement parce que... Mais la Grèce a perdu 6% et puis le lendemain encore 3%, puis encore 2%. Mais qu'est-ce qui pourrait faire très très peur à la finance mondiale, hein? Au point que plus personne n'aura confiance aux actions, en la monnaie, aux places de marché. Juliette, aide-nous. Juliette, allez, tu nous envoies un petit mail, un petit post sur la liste PFC. On diffuse une fausse rumeur, hein. On diffuse un truc très alarmiste. Comment il s'appelle, la nouvelle monnaie, là, le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin va remplacer complètement l'euro. Ça, c'est une sacrée rumeur, ça. Ça, c'est ça, comme le Bitcoin, c'est incontrôlable pour la finance, parce que il n'y a jamais de commission, il n'y a jamais de... On ne peut pas créer de la fausse monnaie, puisque tout est sécurisé. Bon, il y a aussi des avantages, mais...
Il y a une nouvelle monnaie, là.
C'est pas sous contrôle de la cabale, le Bitcoin. C'est plutôt le collaboratif.
Il y a une nouvelle monnaie, là, semblable au Bitcoin, mais je me rappelle plus exactement comment elle s'appelle. Je crois que c'est l'Ethereum. Enfin, je crois que c'est écrit comme l'Ether. Ethereum, c'est quelque chose comme ça. C'est le seul même principe, et ça me paraît que c'est mieux. Bon. Donc ça vient de démarrer, là. Voilà.
Alors, il me revient encore une autre nouvelle. Je suis sidéré par les actualités sur les émissions, les documentaires sur la chaîne Arte. Mais alors, je trouve que c'est une chaîne d'éveil de la conscience. Je pèse mes mots, hein, parce que déjà l'Allemagne est une sorte de phare dans ce qui concerne l'évolution de la conscience. En pleine crise, l'Allemagne arrive à sauvegarder ses emplois, à faire beaucoup. En écologie, ils sont très avancés, ils sont les plus avancés en Europe. Ils ont renoncé au nucléaire. Enfin, il y a des choses très audacieuses, très courageuses. Bon, tout n'est pas vert, hein, parce qu'ils ont remis des centrales à charbon. C'est OK. Mais qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Plusieurs nouvelles, des documentaires sur l'économie collaborative qui commence à envahir la planète. le partage, l'ère du partage. J'ai été tellement enthousiaste que j'avais plein de choses à faire. J'ai arrêté ce que je faisais et j'ai diffusé le reportage sur Être Plus. Et en plusieurs, l'ère du troc, l'ère de l'échange. Mais au-delà de ça, ça contourne les institutions financières, ça contourne les grandes multinationales, ça donne la parole au peuple. Et l'exemple qu'il donnait est très beau, on peut le voir jusqu'à mardi, donc essayez de le voir parce que c'est magnifique. Il ne faut pas laisser passer ce documentaire. Il y a deux volets, hein, donc ça fait 2 fois 53 minutes. Donc l'exemple, c'est une jeune femme allemande projette un voyage en France et depuis Internet, elle réserve une chambre chez l'habitant en collaboratif, Airbnb, hein, je crois que c'est ça, bed and breakfast par la voie des airs. Hein, et donc, c'est plus le système traditionnel, je m'enferme dans ma chambre d'hôtel tout seul, je me vois des films et puis je vois pas la France où je la vois du point de vue du touriste. Non, elle est allée chez une jeune femme qui a mis une chambre de son propre appartement sur Airbnb à louer. Et puis, elle a dit, si tu veux, je t'emmène voir la Tour Eiffel, je suis un peu disponible. Voilà. Donc, beaucoup plus de relations, le collaboratif. Et c'est comme le tramway qui ne passe pas par Châtelet, hein, qui va directement d'une banlieue à l'autre. Là, c'est le peuple avec le peuple, au lieu que ce soit par les banques centrales, par les multinationales. On va pas, c'est comme la ruche qui dit oui. On ne va pas au supermarché pour acheter ses carottes, on les achète au producteur. Il y a un lien direct. Alors là, elle va à la source, il y a des tas de chambres libres partout, en France et dans le monde. Et là, ils en sont à plusieurs millions d'annonces. On peut aller ou on peut échanger du temps chez soi contre du temps chez quelqu'un d'autre. C'est absolument extraordinaire. Alors, elle s'est pas arrêtée là. Elle a commandé un repas collaboratif où il y a une personne qui cuisine pour les autres, qui se fait une spécialité culinaire. Et puis, plusieurs personnes qui ne se connaissent pas réservent et viennent manger ensemble. Et donc, ça fait des relations. Hein, elle cuisine quelque chose qu'elle sait faire et elle entre en contact avec d'autres personnes. Bon, on n'est plus au restaurant, devant sa table, tout seul ou avec seulement ses amis proches, mais on peut être avec des gens qu'on ne connaît pas et ça s'ouvre. Donc, c'est des exemples qui ont l'air de rien, mais pour moi, ça témoigne d'une ouverture. Ça passe plus par le centre. C'est les 7 milliards d'humains sont appelés à trouver leur pouvoir entre eux plutôt que de passer par un pouvoir central. Waouh, ça pour moi c'est une nouvelle. Comme ça se développe, ça commence à inquiéter fortement les multinationales parce que chaque fois qu'il y a un congrès sur l'économie collaborative, parce qu'il y a des congrès, tous les représentants de l'énergie, des hôtels, tous, ils y vont, ils envoient des délégués parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se trame. C'est très menaçant pour eux. C'est dit dans ce reportage. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune femme? Elle a continué avec un covoiturage. Non, elle est venue déjà par un covoiturage de Blablacar. Donc, c'est j'ai une place dans ma voiture, qui veut en profiter? Donc, on discute, on trouve des gens. Elle est allée loger chez son logement chez l'habitant, et puis elle est allée manger chez l'habitant, et ensuite sa colocataire, elle lui a fait visiter Paris, et ensuite elle est retournée en covoiturage. Elle a dit, je ne savais pas du tout où j'allais mettre les pieds, mais c'était tellement extraordinaire que je recommencerai avec grand plaisir, parce que j'avais un petit peu peur, mais je suis allé de bonne surprise en bonne surprise. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ce... C'est comme une traînée de poudre, c'est comme une idée géniale dont je parlais il y a quelques semaines. L'idée, c'est, au lieu de nous référer, donner notre pouvoir à une structure qui est au-dessus de nous, qui est loin de nous, qui est inatteignable, sur laquelle nous n'avons pas de pouvoir, eh bien, utilisons notre pouvoir entre nous. On est 7 milliards, on est 99%, et ils sont 1% dans tous ceux qui dirigent ou qui centralisent le pouvoir. Donc, qu'est-ce que j'ai vu après ? Un Allemand, il semble que les bonnes idées peuvent aussi venir de là-bas, mais en Espagne, ça bouge beaucoup aussi. Un Allemand a utilisé un service qui ressemble à Autolib, mais encore mieux pour moi, parce que c'est une voiture comme toutes les autres, apparemment. C'est une belle BMW blanche qui est garée dans la rue, sans aucun signe distinctif. Mais alors, elle est belle, hein ? Blanche, pratiquement neuve. Il a une carte à puce, parce qu'il l'a louée dans l'économie collaborative. Il l'a louée. Et il a une carte à puce, il met la carte à puce sur le pare-brise, les portières s'ouvrent, les portières se déverrouillent. Ça ouvre la voiture, il met la carte à puce dans une fente du tableau de bord, le moteur s'allume, et ensuite il va où il veut. Tout est bien sûr, à partir de ce moment-là, le temps est comptabilisé, il paye à l'heure, etc. Ensuite, il va là où il veut aller, il garde la voiture, le frais de parking est payé par le collaboratif de la voiture, et il garde la voiture où il veut, n'importe où, sur n'importe quelle place de parking, sur n'importe quel parking souterrain, il pose la voiture où il a envie, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il dit ? Moi, quand j'ai envie d'aller à une soirée avec des amis où on va boire, je peux prendre une voiture tranquillement pour y aller, je la pose où je veux et je rentre en métro ou je rentre en taxi. Mais comme ça, je sais que je peux déposer la voiture où je veux, je n'ai pas besoin de... Et puis, c'est pas très cher. Hein. Et un autre dit, moi, je n'ai pas besoin d'avoir une voiture dans ces conditions-là. Le jour où j'en ai besoin, je la prends, j'utilise 24 heures et je la repose n'importe où. Là où je veux, dans la rue, dans la ville. J'ai un périmètre, je la pose. Si j'ai envie d'être avec ma copine et puis de louer une décapotable pour la journée, hop, je regarde Internet, il y a une décapotable, une Mercedes, une belle voiture, ça coûte un peu plus cher, mais c'est juste pour une journée. Hop, jamais, il fait beau, il y a du soleil, est-ce qu'il y a des décapotables disponibles, tu les vois et tout. Waouh, ça m'a bluffé.
Je vois ça très matérialiste.
Bon. Alors, moi, l'avantage que je vois, bien sûr, c'est que quand on collabore avec des voitures comme ça, on n'a plus besoin d'avoir sa propre voiture. Et ça veut dire que sur 10 voitures achetées, il va en rester que 2. Ça, c'est l'estimation quand on fonctionnera tous en partage de la voiture. Cette voiture, elle est partagée. Si j'en ai besoin une semaine par an, pourquoi est-ce que j'aurai une voiture qui dort ? Moi, ma voiture, elle est en train de dormir dans la cour. Je renouvelle même plus le contrôle technique tellement elle dort. Parce que je me dis, à quoi ça sert ? Attends, je termine. Mais si on supprime 80% des voitures dans le monde, ben on va respirer un peu mieux. C'est déjà un premier stade. Donc, on partage les voitures. Qui veut ma voiture mercredi parce que je m'en sers pas, hein ? Et les gens qui ont fait ça ont dit, au début, j'avais des réticences à la louer, j'ai peur qu'elle soit abîmée. Mais j'ai vu que finalement, les gens en prenaient soin comme si c'était leur propre voiture. Et puis, il y a des systèmes de notation. Celui-là, il est sérieux, comme sur eBay. Hein, il y a notre réputation. Plus on a d'expérience positive, et plus on est fiable. Donc, ça fonctionne avec la confiance. Et élément numéro 1.
Oui, je voulais dire ce que tu as dit. C'est-à-dire que ça permet de libérer beaucoup d'espace. Parce que...
Des places de parking.
Oui, d'espace d'occuper autrement par des voitures qui sont inutilement inutilisées. Parce que c'est vrai que la logique de que lorsque chacun a sa voiture, voire plusieurs, à l'inverse que de lorsque une voiture peut être utilisée par plusieurs personnes, ça prend beaucoup plus de place. Donc déjà, ça c'est l'aspect positif, ne serait-ce déjà que pour les autolibs. Hein. Déjà, ça contribue à désengorger un peu les rues de Paris. Mais c'est vrai que cette idée-là, c'est pas mal là, de pouvoir. Parce qu'en plus, le problème, moi, ce qui m'embête un peu avec Autolib, c'est que je me dis qu'il y a un monopole. C'est-à-dire que comme c'est un type de technologie, à terme, comme effectivement, c'est quand même intéressant, ça, c'est pratique, et que voilà, pour plusieurs raisons, hein, ça prend moins de place, c'est pratique, il y a des chances, effectivement, ça se développe, mais. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils peuvent se retrouver dans une situation de monopole où il n'y a quasiment plus aucune voiture, il n'y a plus qu'un seul type de voiture, c'est des Autolib et puis des Vélib. Alors là, c'est vrai que cette approche-là, c'est pas mal parce que. En plus, c'est plus pratique parce que tu gares où tu veux. Donc technologiquement, oui, j'étais pas au courant, je trouve ça intéressant. Ouais.
Et puis, disons que Internet est très au cœur de tout ça. J'imagine, tout d'un coup, j'ai une visualisation. J'ai ma tablette connectée. Disons qu'on a un Internet super puissant, là, dans les années qui viennent. On en est à la 7G. Débit en temps réel, illimité, bien sûr. Alors, je suis à Place de la République, et puis je veux aller... je ne sais pas, à Porte d'Ivry, et puis je vois en temps réel sur mon écran des voitures qui ont des places de libre et qui passent par République. Et à ce moment-là, je clique sur un bouton, je dis « je veux une place ». Et lui, comme il a aussi Internet illimité en 8G sur sa tablette, là, il y a un truc qui clignote. « Ah, à République, il y a quelqu'un qui voudrait monter ». Il s'arrête, il me prend, parce qu'il sait qui je suis. Il sait, il a une petite aiguille. Tu vois, il a une réalité augmentée, et puis il me voit, et au-dessus de ma tête, il y a une petite flèche, il dit, c'est moi. Tu sais, la réalité augmentée, c'est tu vois une image réelle, et par-dessus, il y a des informations, comme les étoiles dans le ciel. Donc, là, j'ai un transport en commun intelligent, parce que je ne suis plus obligé d'attendre le bus, je ne suis plus obligé, à 18h, si c'est tout bondé, je peux avoir des places ailleurs. Alors, ça recèle un potentiel énorme. Si on met en commun nos ressources. Hein. Alors, Autolib, j'ai entendu sur Radio Ici et Maintenant que c'était, à part le fait qu'il y a du partage, qui est une bonne chose, ils ont été obligés de retirer propre et écologique par décision de justice, parce que c'est ni propre ni écologique, parce que l'électricité vient du nucléaire. On ne peut pas dire que c'est propre, parce qu'il y a toute la gestion des déchets qui n'est pas assurée. C'est pas écologique. Maintenant, ils disent 100% électrique. Alors ça, on peut que dire oui. Mais ce n'est pas au niveau ça n'économise pas la pollution parce que si l'électricité est nucléaire, y a une autre forme de déchets. Voilà. Et avoir vu ce documentaire, ça m'a incité à dire oui, et si mes prochaines vacances, je vais passer en collaboratif. S'il y a des fermes en Norvège ou au Danemark ou partout dans le monde qui peuvent t'accueillir une semaine, tu travailles, tu nourris les bêtes et tu loges chez l'habitant en échange. Et ça te permet d'être dans une autre culture. Et ça, tu t'inscris sur Internet, c'est une sorte de kibbutz, mais... n'importe où dans le monde, quoi. Si ça, le point principal auquel je voulais venir, si ça se développe au point de concurrencer, de mettre à mal toutes les entreprises multinationales, ce 1%-là, il a du souci à se faire. Par exemple, les hôteliers... commence à craindre les effets du B&B, du Bed and Breakfast par Internet. Ils veulent des lois et ils sont en train de faire passer certaines lois pour limiter. Et Airbnb, maintenant, doit payer une taxe de 10% à l'État qui représente la taxe de tourisme qu'un hôtel paye. Parce qu'ils disaient que c'était défavorable, que ça... Bon, c'est comme les voitures sans chauffeur qui concurrençaient les taxis. Alors, ça va être une réorganisation, à mon avis, horizontale de la société. Il y a des services qui étaient un petit peu verticaux, qui vont devenir horizontaux, mais ça va se faire avec des réaménagements. Les hôtels vont peut-être devenir plus collaboratifs, et puis les chambres de particuliers vont devenir comme des hôtels. Enfin, il y a des choses qui vont se mélanger un petit peu, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que cette réorganisation, elle est en train de se faire maintenant. C'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est que le collaboratif, si je veux utiliser une machine de menuiserie qui coûte 10 000 euros, je vais à un centre partagé, il y a ce qu'on appelle des Fab Labs, qui ont des machines à découpe laser, tu payes une petite somme et tu as le droit à un petit peu de temps sur cette machine. Tu payes 20 euros, 30 euros ou un abonnement mensuel. Tu peux utiliser des outils professionnels quand on a besoin un tout petit peu de temps. Il y a des endroits où on achète une perceuse en commun. Parce que combien de temps par an j'utilise ma perceuse ? Une semaine par an, et le reste du temps, c'est quelqu'un d'autre qui peut utiliser. Propriété collective, comme la chambre tachyonique. Et donc, il y a des endroits, même en Corée du Sud, c'est dans le reportage, où il y a, par exemple, une tente de camping sur une étagère, et puis une perceuse. Et les gens viennent, mettent leur nom sur un registre, et prennent la tente, vont faire du camping, et la ramènent deux jours après, et ils ne payent rien. C'est subventionné par la ville, ou la perceuse, ou... C'est extraordinaire, hein, parce que ça renforce le lien social. Et pour moi, on est en train d'aller vers la quatrième, cinquième dimension grâce à ça. C'est pour ça que ce n'est pas la forme que ça prend, c'est plutôt le peuple parle au peuple. Le peuple utilise le pouvoir du peuple. Et ça, c'est vraiment nouveau, parce qu'on sort de la pyramide, hein, quand on fait ça. On sort vraiment de... Alors, il y a quelqu'un, je crois que c'était sur Facebook, qui disait « Je vous écris cette lettre. » Il a écrit à son inspecteur des impôts, parce que, tu sais, ils ont un nom-prénom avec un email. Ils sont obligés d'être nommés. Hein. Et il lui écrit un email, il dit « Par cet email, je vous informe que je ne paierai pas mes impôts et que je ne paierai plus aucune taxe. » Et il tutoie, enfin il tutoie pas, mais il s'adresse à la personne qui s'appelle Hubert, et il lui dit « Pourquoi ?» Et il dit « Je vais vous expliquer pourquoi. » Et dans l'email, il y a tout le système de la dette, l'injustice du fait que il y a 90% de l'impôt qui est destiné à rembourser la dette. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé que l'État ne pouvait plus créer sa monnaie, qu'il devait emprunter, et donc ça enrichit les banques, et nous... C'est nous qui enrichissons les banques grâce aux impôts. Donc, elle dénonce ça, elle dit, si vous êtes dans cette société qui collecte cet impôt, vous êtes complice de ce vol, ce rapt d'argent, ce hold-up, et donc, c'est pour ça que je ne paierai plus mes impôts, et puis... ne vous réfugiez pas sur le fait que vous exécutez les ordres. Gandhi disait, ça c'est moi qui le dis, hein, si vous êtes au courant d'un problème et que vous ne faites rien pour le corriger, vous faites partie du problème. Et donc, elle a un appel à la responsabilisation de cet employé qui est Hubert Morin, etc. Donc c'est une personne. Alors... C'est courageux parce qu'elle dit peut-être je vais me retrouver au tribunal et au tribunal, enfin, j'aurai une tribune, c'est le cas de le dire, pour dire pourquoi je ne veux pas payer, pourquoi cette taxe est injuste. Waouh ! Il y en a une, hein, mais ça ressemble aussi un peu au PPT, One People Public Trust, hein. Donc ça, le collaboratif, il y a des étincelles, hein, sur Terre. Moi, je suis attentif aux étincelles. Et c'est quoi ? C'est les petits feux qui allument un grand brasier. Parce qu'il y a un feu là, un feu là, un feu là. Ça, là c'est la conscience. Hein, c'est la conscience qui s'éveille sur Terre. Donc réjouissons-nous et puis n'hésitons pas à participer à allumer des petits feux. Il y a plein de manières. Si nous-mêmes, on met en collaboratif ce qui est en personnel et privé, on fait déjà quelque chose pour la conscience humaine, de partage. Si on finance un projet, un microcrédit en Afrique, on fait quelque chose pour que la conscience augmente en Afrique, hein, parce que il y a des petits commerces qui vont, les gens vont devenir plus autonomes, etc. Donc il y a beaucoup à faire simplement par des petits actes quotidiens. Ces petits actes-là, n'attendons pas que les autres les fassent, parce que c'est à notre portée, puisque on est les 99%. Voilà, et puis il y a eu une nouvelle qui malheureusement s'est révélée fausse, mais qui est une bonne idée. Ça s'appelait Anunabox. Non, pas Anunabox, c'est pas Anunnaki. Hein. Anunabox, c'était une boîte électronique censée crypter tous vos accès à Internet. Donc, vous mettez le câble d'un côté, Internet, qui arrive de chez vous, de la Freebox ou n'importe où, et de l'autre côté, vous branchez votre ordinateur, et entre les deux, tout est 100% crypté. C'est-à-dire que votre connexion est 100% anonyme. C'est anti-NSA, on ne peut pas du tout savoir qui vous êtes ou qu'est-ce que vous avez fait sur Internet. Alors c'était une vraisemblablement très bonne idée parce qu'ils ont financé le projet 80 fois. Ils demandaient, je sais pas, 80 000 dollars je sais pas, enfin, ils ont eu 80 fois la somme jusqu'à ce que finalement le truc révèle que c'était une fausse découverte, une bonne idée mais une fausse découverte. Et que cette boîte n'existait pas. Quoi. C'était une tellement bonne idée qu'ils ont réussi à avoir 80 fois plus de dons qu'ils n'en demandaient. C'est fort quand même. Alors, cette nouvelle-là, elle mérite d'être dite parce que, il y a, dans le fond, pourquoi ça a marché comme ça ? Parce que l'idée était bonne. Parce que, il suffit d'un peu d'électronique bien intelligemment construite pour que j'ai une boîte entièrement sécurisée, que ça soit crypté au plus haut niveau. Waouh, c'est fini, quoi. On ne peut plus du tout me surveiller. Hein. Donc, bon, il y a des systèmes qui existent, hein, mais ils sont complexes pour l'individu moyen. Donc, voilà.
Ludmila, je vous suggère d'écouter qu'est-ce qu'il dit. Kavasilas, au sujet des projets technologiques qui sont proposés aux gens. Il dit que c'est une sorte de collection d'énergie.
Voilà, moi j'ai plus. J'ai plus grand chose à dire. Je reçois un email juste à l'instant, à prendre avec des pincettes. L'événement arrive. Non, je rigole. Le président, c'était un gros hoax. Le président Obama aurait signé avec les Chinois la faillite de la Fed le jeudi 16 octobre à 14h. À prendre avec des pincettes. Hein. Mais c'est. Et. Bon, c'est Nera qui nous envoie ça. Merci Nera. Mais bon, on a eu tellement de fausses annonces dans ce domaine-là que ça mérite d'être confirmé ou reporté. Voilà, donc ça concerne Nessara. Mais Nessara, d'après Cobra, n'arrivera pas avant l'événement. Donc on peut se tranquilliser ou... être déçu, selon, que ce n'est pas Nessara qui déclenchera l'événement, c'est l'événement qui déclenchera Nessara. Voilà, et puis ceux qui veulent rester dans l'émotionnel avec ça arrive demain, ça arrive dans une semaine, ça arrive, c'est leur choix. Mais l'émotionnel n'a pas fait grandir le niveau de conscience sur Terre, c'est plutôt l'inverse. L'émotionnel plombe le niveau de conscience. Enfin, l'émotivité, hein, je ne parle pas des émotions... qui sont positives ou simplement être ému, être authentique, des choses comme ça. Voilà, je sens que j'ai beaucoup parlé, mais en même temps, bah, c'était ce qui est là, ce qui était là. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Alors, une dernière actu, dimanche prochain, 26 octobre, à 15h, il y a toute une après-midi, on chante des mantras avec les paroles qui défilent sur écran géant, et donc c'est de nature à fortement élever le taux vibratoire. On fait une pause à 17h pour la méditation mondiale, on sera peut-être un certain nombre ici, donc ça va amplifier encore les vibrations. Donc, ceux qui sont proches, venez, hein, venez dès 15h. Au revoir Nicolas, bonne semaine. Voilà, de 15h à 18h, 18h30, les mantras, c'est des structures énergétiques qui résonnent avec notre propre énergie et qui nous aident à monter notre taux vibratoire. Donc ça, j'ai envie de le faire, je suis poussé à le faire vraiment régulièrement, tous les mois, tous les 6 semaines, quand je peux, le dimanche, pour le faire coïncider avec 17h. Pour qu'il y ait une pause, pour méditer ensemble à plusieurs pendant quelques minutes, une dizaine de minutes. Voilà, chers amis de PFC, ravi d'avoir partagé ce temps avec vous. Et puis, j'espère que nous pourrons nous retrouver très bientôt par l'enregistrement ou de visu. À tout bientôt!